Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
Au sommaire de ce journal, lutte contre le terrorisme, au moins 50 présumés terroristes ont été neutralisés hier dans la boucle du Moun et du matériel récupéré selon l'armée. Dans cette édition, immersion dans le quotidien des déplacés internes de Kaya afin de nous enquérir de leur quotidien. Procès Thomas Sankara, les réclamations sur les intérêts de la partie civile a débuté ce mardi à la justice militaire. Nous ferons le point dans ce journal. Notre invité du jour est Wolfram Vetter, ambassadeur désigné chef de la délégation de l'Union européenne. Il nous parle de la célébration de la journée de l'Europe qui se tient le 9 mai de chaque année. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'annonce a été faite hier, l'armée burkinabé affirme avoir neutralisé 50 présumés terroristes dans les régions de la boucle du Moun et du Sud-Ouest. Une victoire dans cette lutte contre le terrorisme que nous compte Lamine Traoré.
Selon le communiqué de l'état-major, le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, en abrégé GARCI à Barani, a vigoureusement réagi à une embuscade tendue par plusieurs dizaines d'individus à quelques kilomètres de la capitale de Barakui, province de la Kossi, région de la boucle du Moun, hier lundi. L'unité qui a rapidement pris le dessus a mis les assaillants en déroute, neutralisant au moins 40 terroristes. Du matériel de combat a également été récupéré à la suite du ratissage intervenu après l'attaque et appuyé par l'armée de l'air, peut-on lire dans le communiqué de l'armée. Selon le communiqué toujours, quelques blessés légers ont été enregistrés et pris en charge. L'armée explique que dans le même temps, une unité du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa a conduit une action offensive à la sortie de Djigoué, province du Pony, région du Sud-Ouest. L'action conduite en coordination avec les VDP, volontaires pour la défense de la patrie de la zone, a permis de neutraliser 10 terroristes et de récupérer leur armement, précise l'état-major. Également, des moyens roulants et des moyens de communication ont été saisis, indique le communiqué.
Le centre nord du Burkina Faso est l'épicentre d'une crise humanitaire qui s'amplifie du fait de l'insécurité. Plusieurs déplacés tentent d'y survivre, une situation qui n'est pas sans conséquence sur leurs conditions de vie. Confrontés à plusieurs difficultés, ces déplacés internes n'ont d'autre option que de s'adapter et faire preuve de résilience. Pierre Badolo nous plonge au cœur de leurs conditions de vie, de logement et de travail dans ce reportage.
Plusieurs personnes dans la région du centre-nord affluent vers la ville de Kaya suite à l'insécurité qui menace la région. La vie à Kaya est un autre calvaire, un autre défi. Il faut alors affronter l'ardent soleil le jour et dormir à la belle étoile. Une fois à Kaya, il faut tout reprendre à zéro. Un nouveau départ, un nouveau mode de vie, de nouvelles constructions, surtout trouver un boulot. C'est le cas de Momouni et Saïdou, arrivés il y a 6 jours. Il faut trouver un abri pour la famille qui patiente sous l'ardent soleil. Le vieux Sato Kiswende vient de Kelbo. Il a pris la fuite avec sa famille après que les hommes armés aient abattu son jeune garçon de 26 ans. Le voyage s'est fait à pied et en charrette après 4 jours de marche pour rallier la ville de Kaya.
Nous sommes arrivés ici sans le minimum et depuis notre arrivée, ils ont procédé au recensement, mais jusqu'à présent, nous n'avions pas reçu quelque chose pour le moment et nous sommes dans l'attente. Nous sommes tirés ici d'abord parce qu'il n'y a pas de logement. Nous demandons de l'aide. C'est à cause des terroristes que nous avions fui. Ils sont venus tuer mon fils de 26 ans dans la cour, raison pour laquelle nous avions quitté la localité. Tant que cette situation ne finit pas, personne ne pourra retourner là-bas.
Ibrahim Ouedraogo vient de Bassalogo. Il est arrivé à Kaya il y a environ 2 ans. ou nourrit des bouches, il doit trouver des trous de WC à creuser dans les terres arides de Kaya.
Depuis que nous sommes là, nous devons nous débrouiller pour manger et dormir. Regardez mes mains. Ce sont des trous de WC que je creuse pour nourrir ma famille. Si je ne sors pas ce jour-là, personne ne va manger. Nous avons souffert là-bas et ici aussi, ce n'est pas simple. Mon doigt est cassé en creusant et on m'a dit de ne rien attraper pendant 14 jours. Mais je ne peux pas. Ma famille doit manger.
Maria Madiko a perdu son mari et des proches. Toute seule. Elle doit nourrir 9 enfants à elle seule et 6 autres orphelins. Le coût des denrées n'est cependant pas à la portée de tous.
Je rends grâce à Dieu et je remercie les personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide. Nous avons frôlé la mort, mais Dieu merci, la vie continue. On espère.
La province de San Mantengan à elle seule compte environ 374 840 personnes déplacées internes.
Du côté de Touga, la majorité des citoyens pensent que la situation sécuritaire s'est davantage dégradée 100 jours après la prise du pouvoir par l'armée. Pour ainsi renverser la donne, ils proposent le renforcement du dispositif sécuritaire et l'appui des partenaires extérieurs. La synthèse des réactions avec notre correspondant sur place à Touga, Ambroise Kanadon-Ki.
Plus de 100 jours après le coup d'état militaire, les commentaires vont bon train à Tougan quant à l'appréciation de la gestion du pouvoir dans le contexte actuel. Pour la plupart des citoyens, le climat sécuritaire s'est davantage dégradé.
Ça ne va toujours pas. Chaque jour que Dieu fait, on entend qu'il y a des soldats qui sont tombés, des VDP qui tombent toujours. Ah, la crise alimentaire aussi est en train de s'augmenter. Ça ne va pas.
Il y a toujours des déplacés. Il y a toujours des morts parmi les militaires.
La situation ne fait que s'empirer sur le terrain. L'espoir qui était né au lendemain du coup d'État par rapport à la situation sécuritaire, je pense que l'espoir en termes de retomber. Parce qu'actuellement, si tu prends le Sourou, il y a beaucoup de zones où on ne peut pas aller. Surtout la zone humide, la vallée du Sourou où actuellement ce sont les Anis qui contrôlent la zone. On ne peut pas y mettre pied. C'est vraiment très très compliqué.
Pour renverser la donne, la population ne tarit pas de propositions. Il s'agit entre autres du renforcement des effectifs et du matériel sur le terrain, de l'accélération des opérations de sécurisation, aussi et surtout la collaboration avec les forces étrangères.
On va demander plus d'engagement, hein. Pourquoi ne pas vraiment tenter d'autres expériences ailleurs?
Il faudrait qu'on voit en termes de disponibilité des FPS, comment on va gérer la situation. S'il y a des zones qui sont en manque, on n'a qu'à vraiment renforcer et mettre les moyens matériels à leur disponibilité.
Il faut œuvrer à accélérer ce qu'il faut accélérer, à faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse restaurer la paix et la sécurité, la bonne cohésion sociale dans le pays.
Tout comme dans d'autres localités de la boucle du Mouroun, l'impact de la crise sécuritaire est visible dans tous les secteurs d'activité du Sourou. Et de plus en plus, les populations plaident pour une attention particulière des autorités actuelles afin d'éviter le pire. Ambroise Kanadon-Ki, Tougan, Radio Omega.
Comment donc assurer un bon système éducatif dans un contexte d'insécurité? Les responsables des structures déconcentrées de l'éducation des Hauts-Bassins ont tenu une rencontre d'échange avec le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Bilgeau, pour discuter des problèmes qui minent le secteur de l'éducation dans la région, justement dans un contexte marqué par l'insécurité. La première phase de cette activité a eu lieu hier à Bobo-Dioulasso. Le compte-rendu dans ce reportage de Mamou Ouédraogo avec la voix de Olivia Yen.
L'école burkinabé est confrontée depuis quelques années à d'énormes difficultés. Des problèmes qui se sont accentués avec la recrudescence des attaques terroristes. C'est fort de ce constat que les responsables des structures déconcentrées de l'éducation des Hauts-Bassins et leur ministère de tutelle sont réunis à Bobo-Dioulasso pour lister les maux qui minent le secteur éducatif dans la région et ainsi proposer des pistes de solutions. Lionel Bilgeau, ministre de l'Éducation.
Nous allons passer en revue les difficultés que rencontre le système éducatif dans la région. Nous allons également aborder les grands défis à venir. Imminemment, ce sont les examens et concours. Et également, imaginer ensemble ce que nous pouvons faire pour améliorer le système éducatif. J'attends justement que nous puissions trouver les solutions à toutes les difficultés qui seront posées, que nous puissions ensemble innover, que nous puissions réfléchir sur comment nous allons faire pour améliorer non seulement le capital humain, mais aussi améliorer l'ensemble du dispositif mis en place. Sachant que l'insécurité gagne du terrain, comment nous allons faire pour maintenir toujours un système éducatif performant, mais également permettre de réduire le nombre d'enfants qui auraient l'envie envie en tout cas de rejoindre les bases terroristes ou qui sont embrigadés dans ces chemins-là.
Les élèves déplacés internes n'ont pas été oubliés à cette rencontre. Le ministre Lionel Bilgo rassure que le gouvernement est en train d'œuvrer à les maintenir dans le système éducatif.
Vous avez plus de 3800 établissements qui sont fermés, plus de 599 000 élèves qui se retrouvent sans avoir accès à l'école. Mais nous sommes en train de prendre des mesures. Il y a un plan qui est mis en place pour justement accueillir les élèves déplacés pour pouvoir continuer à les former. Cette année scolaire, par exemple, pour les examens, vous savez, beaucoup d'élèves ont fui leur localité sans même prendre de documents pour pouvoir s'inscrire. Il y a un système qui est mis en place pour pouvoir les intégrer dans la base de données tout en les accompagnant pour qu'ils puissent composer et après on verra comment ils vont avoir leurs documents. Il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour permettre au moins à l'école de résister.
Après Bobo Dioulasso, ce sera au tour des acteurs de l'éducation de la région des Cascades d'exposer leurs préoccupations. Olivia Yen, Bobo Dioulasso, Radio Omega.
Procès Thomas Sankara à présent, les réclamations sur les intérêts de la partie civile ont eu lieu ce matin à la justice militaire. À l'issue de cette audience, Maître Benewende Sankara, avocat de la partie civile, estime que l'émission du certificat de décès par la Cour n'est pas conforme et qu'une concertation avec la famille est en cours s'il y a lieu de faire appel à la décision. Maître Benewende Sankara est au micro de Mumuni Tamboura.
C'est pourquoi je vous dis que cela se fera bien sûr en accord avec la famille. On appréciera. S'il faut faire appel sur ce point, puisque ce sont nos intérêts civils, vous le saurez. S'il faut aussi prendre acte purement et simplement de la décision et passer à autre chose, eh bien la famille nous dira ce qu'il faut faire. Nous constatons que la Chambre a effectivement rejeté l'émission d'un certificat de décès conforme aux faits. Est-ce que cela est dicté par le fait que celui-là qui était poursuivi a été purement et simplement blanchi? Je n'en sais rien, mais il faut que nous ayons les commentaires de la décision pour savoir quel a été le motif.
Les agents judiciaires, quant à eux, pensent qu'ils ont droit à une indemnisation. Carfo Yanou, agent judiciaire, est au micro de Mumuni Tamboura.
C'est-à-dire qu'il faut que les accusés ne soient pas en mesure de payer les sommes mises à leur charge avant que l'État éventuellement ne puisse être appelé à exécuter ou à payer ces sommes-là. Or, si ça avait été civilement responsable et condamné solidairement, ça veut dire qu'on pourrait venir prendre ça sur le patrimoine directement de l'État sans tenir compte des personnes condamnées. Et quitte à ce que l'État essaie de récupérer quelques sommes d'argent avec les personnes condamnées. La juridiction a estimé que nous n'avions pas droit à une indemnisation dans ce dossier. Nous pensions que nous avons droit à une indemnisation en raison d'un certain nombre d'aspects que nous avons mis dans leur dossier. Ils ont pensé le contraire, ils pensent le contraire. Et comme je l'ai indiqué, quand ils vont rédiger, nous allons analyser et nous allons aviser.
Autre procès, celui de cette affaire, Sita Sangaré, Aristide Bansé. L'audience prévue pour aujourd'hui a été renvoyée au 31 mai prochain. Aussitôt ouvert ce matin 10 mai, l'audience de l'affaire opposant Sita Sangaré, ancien président de la Fédération Burkinabé de football, à Aristide Bansé a été renvoyé au 31 mai 2022 à la demande du cabinet de Maître Prosper Farama, avocat de Aristide Bansé. Sita Sangaré, le plaignant, a quant à lui rappelé qu'il poursuivait Aristide Bansé pour diffamation et a ajouté qu'il souhaiterait que cette affaire soit réglée le plus tôt possible. Hors de chez nous, en Équateur, au moins 44 prisonniers sont morts lors d'affrontements entre bandes rivales hier dans une prison d'Équateur, d'où une centaine d'autres détenus ont pu s'évader à la faveur des violences. Selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur dirigé par Patricio Carillo, 44 détenus sont morts et 10 ont été blessés. Un précédent bilan faisait état de 43 morts. Ces violences ont eu lieu dans la prison de Bella Vista, dans la province de Santo Domingo de Los Chisalas, environ 80 km à l'ouest de Quito, précise l'AFP.
La revue de presse.
La reprise des attaques terroristes au Burkina font les choux gras des quotidiens burkinabés. Autre sujet commenté, la COP 15 sur la désertification d'Abidjan. La revue de presse, c'est avec Brigitte Yoda.
Si le terrorisme ne nous tue pas, c'est la faim qui le fera, s'exclame l'Express du Faso à sa une à propos de la crise sécuritaire et alimentaire. Depuis maintenant quelques temps, toutes les fins de semaine enregistrent des attaques terroristes, aussi sanglantes les unes que les autres. Si ce n'est pas dans la boucle du Moon, c'est dans la région de l'Est ou au Nord, relate le journal qui invite les autorités à parler. Qu'on nous dise au moins quelque chose, martèle l'Express du Faso face au regain des attaques terroristes. En attendant, Sidoya s'interroge sur le sens du patriotisme des Burkinabés. Pour notre confrère, le plus frustrant, c'est bien cette autre guerre dans la guerre entre des partisans de telle ou telle puissance extérieure qui doit accompagner le pays des hommes intègres pour vaincre l'hydre. Dénonçant le fait que les Burkinabés veulent confier leur sécurité à d'autres, l'éditorialiste de Sidoya pense pourtant que les Ukrainiens nous montrent la voie. Ce qui fait dire au quotidien qu'en décidant de prendre langue avec les autorités de la transition malienne en raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme, il s'agit d'un aveu des autorités burkinabées qui en dit long sur ce qui se passe sur le terrain dans notre pays. L'Obs, pour sa part, qualifie la manifestation contre la gendarmerie de Yako de comble de l'insouciance après le saccage et l'incendie du poste de contrôle. En effet, pour le doyen des quotidiens, quelles que soient les motivations des commerçants, rien, absolument rien, ne saurait excuser, à plus forte raison, justifier ces actes de vandalisme. Surtout pas dans ce contexte, surtout pas au moment où la nation continue de pleurer les 5 gendarmes tombés sous le champ d'honneur pas plus tard que jeudi dernier à Wanobe dans la province du San Matenga. Espérant que les coupables de tels agissements vont subir la loi dans toute sa rigueur, notre confrère pense que par de tels comportements, on fait le boulot des djihadistes qui, si ça se trouve, sont même en train de rire sous cap de ce service qu'on leur rend, regrette l'observateur Palga. Terminons par la COP 15 en Côte d'Ivoire. Le pays se demande que peut en attendre l'Afrique. Si le journal pense que l'objectif est de trouver des moyens de contrer l'avancée du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres arables ou encore la pollution des sols, aujourd'hui au Faso rappelle que 100 milliards de dollars par an avaient été promis à l'Afrique il y a 10 ans pour lutter contre les réchauffements climatiques. Mais jusqu'à présent, entre 70 à 80% ont été décaissés. Or, le continent subit cet effet climatique qu'il n'a pas généré. C'est pourquoi notre confrère pense qu'Abidjan ferait bien de remettre au goût du jour cette exigence. Le journal des 1200 logements espère en tout cas que les recommandations qui sortiront de cette conférence mondiale sur la sécheresse ne resteront pas lettre morte. Aujourd'hui au Faso, que les plus grands déforestateurs soient les plus grands payeurs et pour que cela soit possible, notre confrère invite le continent à parler d'une même voix car le désert, lui, avance, avance.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Le 9 mai de chaque année, l'ensemble des États membres de l'Union européenne célèbre la Journée de l'Europe. Le 9 mai 1950, Robert Schuman a présenté ce jour-là sa proposition relative à une organisation de l'Europe. La déclaration Schuman est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Cette journée est une occasion d'activité et de festivité qui rapproche l'Europe de ses citoyens et ses peuples entre eux. Notre invité du jour est Wolfram Vetter, ambassadeur désigné, chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina. Il répond aux questions de Valérie Guéret.
Wolfram Vetter, bonjour.
Bonjour, madame.
Célébration de la fête de l'Europe, chaque 9 mai, sous quel signe est placé ce 9 mai de cette année?
Bon, le 9 mai symbolise la plus longue période de paix. Et aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de regret, évidemment, la guerre est de retour en Europe par l'agression injustifiée de Poutine contre l'État souverain de l'Ukraine. Je crois que Poutine n'a pas seulement sous-estimé la volonté et la capacité de l'Ukraine de se défendre, mais aussi la volonté et la capacité de l'Union européenne de soutenir l'Ukraine. Mais le 9 mai, nous fêtons aussi partout dans le monde l'amitié avec nos partenaires, la coopération internationale, notre travail ensemble pour la défense des valeurs et des principes, y inclut aussi le respect du droit international. Mais, je dois dire aussi, la guerre de Poutine ne nous laisse pas oublier qu'il y a d'autres guerres ailleurs au monde et des problèmes, des attaques terroristes comme ici au Burkina Faso. Et le 9 mai, c'est aussi l'occasion de souligner notre solidarité avec le Burkina Faso.
Quel est l'état de la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne?
Nous avons... Depuis, je dirais, à peu près 5 ans, nous avons 4 volets prioritaires de notre coopération. La stabilisation dans les zones les plus déstabilisées, où nous faisons la fourniture des besoins de base, n'est-ce pas, la santé, l'eau, l'éducation, mais aussi la justice, la sécurité et la défense. Également, nous faisons beaucoup dans le volet humanitaire, vu le nombre croissant de déplacés internes. Et puis, un autre axe qui est très important pour nous, c'est la gouvernance, où nous soutenons des institutions étatiques, mais aussi la société civile, pour promouvoir la transparence, le contrôle de la gestion administrative et des ressources financières. Dernier axe, c'est le développement économique et social, qui reste très important, voilà, le long terme, où nous soutenons les chaînes de valeur comme le coton ou le miel, ou aussi la culture. Ici au Burkina Faso. Mais je voudrais quand même souligner, notre coopération n'a pas été arrêtée après le coup militaire.
Transition burkinabé, quelles sont les attentes de l'Union européenne?
Malgré le grand regret que le processus démocratique a été interrompu le 24 janvier par la prise de pouvoir par les militaires, comme la population de Burkina, nous souhaitons que la transition réussisse, surtout dans les volets sécurité, gouvernance et humanitaire. Mais nous sommes prêts de fournir notre soutien au plan d'action de la transition qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres. Mais je pense, comme nous et la CEDEAO, le peuple burkinabé voudrait avoir une feuille de route pour le retour à l'ordre démocratique constitutionnel avec des élections et aussi dans un délai raisonnable.
Le Sahel demeure-t-il toujours une priorité pour l'Union européenne et ses États membres, malgré les relations difficiles avec le Mali?
Bon, vous savez, l'Union européenne a un grand intérêt dans la stabilité et le développement du Sahel. Et nous avons investi beaucoup ces dernières années, plus que 8 milliards d'euros dans la région, et nous allons continuer notre engagement. Et je crois surtout le respect des droits humains et la lutte contre l'impunité restera fondamentale dans toutes les actions gouvernementales, y inclus dans les actions des forces armées. Et ça, c'est important pour nos relations avec l'État avec lequel nous travaillons. Mais si on a un accord sur ces questions, nous sommes prêts de soutenir.
La guerre en Ukraine menée par la Russie ébranle actuellement le monde entier, y compris le Burkina. Que fait l'Union européenne pour atténuer cette crise?
Bon, malheureusement, la guerre de Poutine en Ukraine a des répercussions très directes et négatives aussi sur le Burkina Faso. Et nous ressentons tous l'effet de flambée des prix, des produits de base et des perturbations de l'approvisionnement en produits alimentaires. Ce sont les conséquences directes de l'agression russe contre un des plus grands et plus importants greniers à blé du monde. Nous allons de notre côté faire le maximum de ce que nous pouvons faire pour contribuer à la sécurité alimentaire via nos programmes de développement et humanitaire. Et si nécessaire, nous allons faire des réallocations dans nos programmes au profit de la fourniture des aliments. Mais le travail que nous menons actuellement, c'est de chercher des fonds supplémentaires pour aider le Burkina Faso.
Votre souhait pour le Burkina?
Bon, vous savez, ça me brise le cœur de voir les filles et les fils de Burkina tomber dans des attaques terroristes, de souffrir des conséquences de l'insécurité et du défi humanitaire dans une grande partie du pays. Mes profondes condoléances aux familles et proches des 10 soldats et deux civils qui sont tombés avant-hier dans une embuscade par des djihadistes dans le nord du pays. Et je souhaite donc à toutes et à tous les Burkinabés que la paix revienne le plus vite possible, que les Burkinabés puissent construire ensemble leur propre avenir sans la terrible menace du terrorisme.
Wolfram Vetter, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
C'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.